Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Asma.
Bonjour Noan, comment ça va ?
Moi, super, et toi ?
Pareil, on est tous les deux en classe de seconde au lycée Colbert de Tourcoing et on est surtout ravis de vous accueillir, auditeurs, auditrices, dans cette émission spéciale que l'on a intitulée Helsing. Vous allez vite comprendre pourquoi.
Et oui Asma, on a choisi ce nom car cette émission que nous préparons depuis des semaines est consacrée aux clichés et préjugés sexistes en tout genre que les femmes subissent dans le monde de la musique. Nos camarades de classe ont traqué pour vous ces clichés. Tout au long de l'émission, vous entendrez Léa,
Axel,
Ludovic,
Yann,
Romain,
Yanis
et Axel vous présenter leurs enquêtes, leurs coups de gueule, mais aussi leurs portraits et les interviews.
Commençons sans attendre avec le cliché numéro 1. Les femmes ne peuvent pas être chefs d'orchestre. C'est à toi Léa.
Bonjour. Aujourd'hui, encore, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre en France. On en compte seulement 4% dans l'Hexagone, selon les chiffres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. La situation change très lentement. D'abord, c'est quoi un chef d'orchestre ? C'est un musicien qui coordonne le jeu des instrumentistes des orchestres, donne des indications à une formation musicale à l'aide d'une baguette et une gestuelle afin de rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens. Il oriente l'interprétation des œuvres. Je dis « il » car le métier est occupé à 95% par des hommes. Alors pourquoi les femmes ne sont-elles pas plus nombreuses ? J'ai interrogé Aliette Delalleux, journaliste à France Musique et indépendante spécialisée en musique classique. Les raisons sont nombreuses.
Je dirais qu'il y a plusieurs critères. Le premier, c'est l'histoire de la musique classique et le peu de modèles qu'il y a pu avoir en tant que femme chef d'orchestre. Elles ont très 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 peu dirigé les orchestres à part quelques compositrices, mais déjà elles étaient peu nombreuses qui avaient donc le droit, entre guillemets, de pouvoir diriger leurs œuvres. Souvent c'était ça. Les compositeurs dirigeaient leurs œuvres. Au début du XXe siècle, quelques femmes ont pu diriger des orchestres. Et puis en fait, on oublie que des femmes étaient chefs d'orchestre, donc les modèles ont un peu disparu et les femmes ne se sont pas projetées dans ce métier-là. Et le XXe siècle a fait beaucoup de mal, notamment parce que le métier de chef d'orchestre a pris une grande place, a remplacé en fait le statut du compositeur qui était un peu le, disons, le rôle le plus important. Le chef d'orchestre est devenu très très important dans la musique classique au cours du XXe siècle, ce qui fait que certaines personnes, que des hommes sont devenus des génies intouchables, des stars de la musique classique, c'était les chefs d'orchestre, et que dès qu'on élève un peu un statut, les femmes ont plus de mal à y accéder. On est quand même dans une société où c'est difficile d'accéder à certains postes, notamment les postes à responsabilité, les postes très visibles. Les femmes chefs d'orchestre ont eu du mal à pouvoir en effet accéder à cette figure-là.
Les femmes ont du mal à se projeter, elles ont trop peu de modèles, et les rares chefs qui officient aujourd'hui ont dû faire face à de nombreux obstacles. C'est le cas de Claire Gibault, qui raconte dans un article de 20 minutes avoir reçu des remarques sexistes lors d'un concours au Mexique en 2018. Un chef d'orchestre lui avait dit que les femmes avaient les bras vers l'avant pour tenir les bébés dans leurs bras. Sûrement pas pour diriger un orchestre. En 2013, le chef d'orchestre russe Vassili Petrenko avait dit que l'orchestre réagissait mieux quand il avait en face de lui un homme, et qu'une jolie femme sur le podium déconcentrait les musiciens. La musique classique n'échappe donc pas au sexisme. Je vous propose d'écouter Aliette Delalleux à ce sujet.
Le sexisme est un tout petit peu moins visible. Donc c'est-à-dire qu'on va potentiellement subir en tant que femme dans un orchestre par exemple des remarques de son collègue, mais laisser passer parce que c'est son collègue et qu'il est comme ça et que c'est un peu le rigolo de l'orchestre. Il y a une autre forme de sexisme un peu plus violente, un peu plus dangereuse disons, c'est donc les personnes qui sont un peu intouchables, qui vont avoir des comportements déplacés envers les femmes, des comportements qu'on va excuser. Le milieu est assez précaire, c'est difficile d'être musicienne, c'est difficile d'être chanteuse aujourd'hui, il y a très peu de postes en CDI et donc ce qui fait que c'est difficile de parler, c'est difficile de dénoncer parce qu'on risque sa carrière tout simplement.
Au niveau mondial, il y a encore très peu d'orchestres qui sont dirigés par des femmes. Seulement 48 sur 778, soit 6%. Depuis le 1er septembre 2020, il n'y a qu'une femme sur 30 orchestres prestigieux. Cette femme, c'est Deborah Wallman. Elle vient d'être nommée chef d'orchestre à Avignon.
Mais alors comment faire pour que ça change ?
Une des initiatives récemment mises en place, c'est la Maestra, un concours lancé par la Philharmonie et le Paris Mozart Orchestra, qui s'est déroulé du 15 au 18 septembre 2020 à Paris. Ce concours a pour but de faire connaître des talents féminins, d'encourager les vocations et d'inciter les programmateurs des salles de concert à prendre en compte la diversité des sociétés. Au total, ce sont 220 femmes de 51 nationalités différentes qui se sont présentées. Ça donne de l'espoir. De son côté, Aliette Delalleux adresse quelques conseils aux jeunes filles et femmes qui souhaiteraient devenir chef d'orchestre.
Le premier conseil, ce serait de s'autoriser à devenir chef d'orchestre. C'est-à-dire que Il y a peu de modèles. Alors, de plus en plus, on voit des femmes chefs d'orchestre, mais il y en a quand même peu. Donc, vraiment, ne pas s'interdire et ne pas se mettre des barrières toute seule en se disant que c'est trop difficile d'être chef d'orchestre. Après, il faut se donner les moyens, évidemment, travailler, aller dans des classes de direction d'orchestre qui existent, passer des concours dans les conservatoires et de se soutenir aussi entre jeunes filles qui veulent être chef d'orchestre. Voilà, si vous êtes 2-3, soutenez-vous, aidez-vous. Je pense que la sororité dans ce milieu peut être vraiment très, très, très bénéfique.
Encore un grand merci à Aliette Delalleux.
Merci à toi Léa pour ce billet très éclairant.
On les retrouve en très bonne place dans les orchestres. Je veux parler des flûtes et des harpes. C'est ma transition pour vous présenter maintenant le cliché de Romain et Axel. Les flûtes et les harpes, c'est réservé aux filles.
La harpe pour les femmes, le saxophone pour les hommes. On les appelle les instruments genrés, c'est-à-dire qu'on les associe aux femmes ou aux hommes. Et ces représentations stéréotypées peuvent changer selon les époques.
Prenons l'exemple de la flûte. C'est un instrument qui a très longtemps été masculin. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument où on doit souffler dedans. Tous les instruments qui utilisent le souffle ont été interdits aux femmes, car c'était considéré comme inélégant et indigne pour une femme d'utiliser la bouche et la salive. Ça a été interdit de pratique pour les femmes, notamment au 19e siècle. Elles avaient le droit de jouer du piano, de chanter, parfois de jouer du violon et un peu de l'art.
Autre exemple, le violoncelle. Aujourd'hui, associé aux femmes, était complètement interdit aux femmes car il fallait écarter les jambes pour pouvoir en jouer. Et c'était considéré comme indécent. On peut citer l'auteur Albert Claire qui disait dans les années 40, la femme qui empiète sur les instruments spécialement réservés aux hommes et qui, par exemple, jouent du violon, de la flûte ou de la contrebasse, a, pour l'ordinaire, une allure de caractère masculin et un soupçon de moustache.
Même si depuis la flûte a été reconquise par les femmes, dans les hautbois, les clarinettes, les cuivres, il y a quand même moins de femmes au pupitre. Alors d'où viennent ces clichés ? Je vous propose d'écouter Aliette Delalleux.
On associe le féminin à tout ce qui est léger, tout ce qui est doux, tout ce qui est un peu plus aigu, et le masculin à tout ce qui est puissant, toute la force. Et en fait, c'est des instruments qui correspondent à ces clichés-là. Donc, ce qui fait que la contrebasse, le basson, les instruments plus graves, plus imposants vont être associés aux hommes, et les instruments un peu plus légers, un peu plus doux vont être associés aux femmes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment des clichés à déconstruire, parce qu'il n'y a absolument rien qui montre que les femmes seraient plus à l'aise avec un instrument comme la flûte ou les hommes plus à l'aise avec un instrument comme la contrebasse. C'est vraiment complètement faux.
Les clichés ont la dent dure malgré tout. Une étude de 2008 dans des écoles britanniques montre que les garçons avaient peur de jouer de la harpe ou de la flûte car c'était des instruments qui jugeaient trop féminins.
Merci les garçons.
Passons maintenant à l'interview de Colline Duquenot, une femme qui a su se faire une place dans un milieu masculin. Yanis, c'est toi qui as interviewé Colline, attachée de production Grand Mix, grande salle de concert à Tourcoing. En quoi consiste le métier de Colline ?
Colline s'occupe de la logistique d'accueil des artistes qui viennent jouer au Grand Mixte en collaboration avec l'équipe technique. Elle réserve les hôtels des artistes, prépare les feuilles de route, facilite l'organisation de la journée de concert. Le jour du concert, elle aide l'équipe technique à l'installation du groupe sur la scène.
C'est un milieu très masculin. A-t-elle rencontré des difficultés à travailler avec une équipe d'hommes ?
Oui, elle m'a expliqué que c'était déjà arrivé avec des équipes de groupe qu'elle accueillait. On la prenait pour, je cite, une idiote, du simple fait que c'est une fille et qu'elle est plus jeune que les autres. Elle a aussi déjà vécu des moments où elle travaillait en binôme à la production avec un homme et on ne posait des questions qu'à lui. L'équipe la prenait comme premier interlocuteur alors que c'est elle qui avait le plus travaillé sur le projet. Ce genre de situation arrivait régulièrement malheureusement. Il y a une histoire en particulier qu'elle m'a partagée. Dans le cadre de son travail, elle accompagnait en voiture un membre de l'équipe d'un groupe. Celui-ci a fait des remarques sur sa conduite et la prise de haut toute la journée parce que c'est une femme, mais ce sont souvent des remarques anodines qu'elle doit affronter. Je rapporte ces propos, ce sont des phrases qui me font comprendre que je ne sais pas comment faire mon travail parce que je suis une femme et que l'homme pense savoir faire mieux que moi. Des remarques qui montrent que l'industrie musicale a encore du chemin à faire pour inclure totalement les femmes.
Merci Anis.
On met souvent les femmes dans des cases. Dans un groupe de musique, elles sont retouchants. C'est le préjugé d'Axel. Les femmes ne peuvent être que chanteuses dans un groupe de musique. Axel, c'est à toi.
Bonjour. Ce préjugé semble tellement ancré qu'il est difficile de retrouver son origine et son explication. Ce qui est certain, c'est qu'en tant que chanteuse dans un groupe de musique, les femmes sont davantage mises en avant et valorisées. C'est notamment ce qu'explique Élise, membre du collectif Loud Her, qui œuvre pour une meilleure visibilité des femmes dans la musique.
La femme, si elle est musicienne, faut qu'elle soit en robe, faut que ce soit celle qui est vraiment la mieux sapée du groupe. Que son corps soit mis en valeur bien plus que ceux des hommes.
Eh bien le problème c'est que l'on part souvent du préjugé que la femme ne peut être bonne qu'au chant et pas à la technique au sein d'un groupe. Elle serait donc par exemple incapable d'accorder une guitare ou de gérer le branchement de l'équipement. C'est d'ailleurs ce qu'explique très bien l'artiste Sophie Sand dans l'interview qu'elle nous a accordée.
Une fois je me suis retrouvée à devoir très vite faire des balances. Vous voyez ce que c'est les balances, c'est le réglage du son avant les concerts. Je faisais une première partie, j'étais arrivée assez tard et fallait faire mon son, mes lumières en même temps. Donc je fais le son, je règle ma guitare et ma voix avec le gars qui est au son. Et le copain qui est aux lumières, je lui demande, dans un jargon technique un peu, deux, trois trucs auxquels je tiens, parce que c'est mon univers et j'ai travaillé ça comme ça. Et puis le régisseur de la salle, mais vraiment, en voulant être sympa, un peu paternaliste, dit « Oh là là, c'est qu'elle est exigeante avec ça !»
Prenons les choses à l'envers. Il est facile de citer des groupes mixtes où les hommes chantent et les femmes jouent des instruments de musique. Si on remonte légèrement dans le temps, on peut par exemple évoquer le groupe de rock français Téléphone, qui est principalement constitué d'hommes, dont un qui est au chant et d'une seule femme à la basse. Et on trouve aussi des groupes constitués uniquement de femmes, et donc dans lesquels certaines de ces femmes sont aux instruments. Je pense notamment au groupe de rock américain Four Non Blondes.
Merci d'avoir déconstruit ce préjugé, Axel.
Quand elles sont chanteuses, on leur dit parfois qu'elles ne sont pas compétentes, avant même d'écouter leurs morceaux. C'est justement le préjugé auquel vous avez décidé de vous attaquer, Ludovic et Yann, en vous intéressant plus particulièrement au rap. Dernier cliché, les femmes ne savent pas rapper.
Le rap est devenu l'un des genres musicaux les plus écoutés en France et dans le monde. Et dans ce milieu, de nombreuses femmes écrivent, composent et chantent. Mais rares sont celles qui osent être sur le devant de la scène. Depuis Jams, dont les derniers succès remontent à 2010, peu de rappeuses ont atteint une existence commerciale.
Si on prend cette année 2020, par exemple, comment s'en sortent les femmes dans le classement des rappeurs les plus écoutés?
Eh bien, aucune ne se classe parmi les 20 artistes de rap les plus écoutés de l'année. Et seulement deux rappeuses réussissent à intégrer le classement des 200 meilleures ventes avec leur album. Il s'agit de Marwa Loud avec ses albums My Life et Loud, qu'on retrouve respectivement à la 96e et 168e place. La seconde artiste est Shay, qui avec son album Antidote se hisse à la 115e place.
Dans l'Hexagone, l'une des seules rappeuses à avoir une vraie existence commerciale se prénomme Sheila. Elle a été soutenue par le Capitol Music France, le label de la Major Universal, qui est celui des rappeurs stars Booba et Damso. Sheila est née le 27 avril 1994 à Genolli en Suisse. Elle a commencé sa carrière à Lyon. C'est une rappeuse franco-malgache engagée, surprenante, libre. Parmi ses titres les plus écoutés, on retrouve les morceaux Lettre au président, Si j'étais un homme ou encore Balance ton porc.
Il ne voit pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte.
Les grandes maisons de disques seraient très prudentes avant d'engager un artiste. Elles ne refusent pas de collaborer avec des femmes, mais préfèrent parier sur des artistes qui peuvent avoir du succès sans problème. Les chanteurs ont donc besoin d'une audience pour taper dans l'œil des labels. Et pour cela, ils postent leurs morceaux sur les réseaux sociaux. Mais là, on remarque que les personnes qui reçoivent les plus souvent des messages haineux ou décourageants, ce sont les femmes.
Je pense à Amalia. C'est une jeune rappeuse qui postait ses morceaux sur Instagram. Elle a raconté qu'elle recevait régulièrement des messages du type « Les femmes ne doivent pas rapper » ou encore « Retourne en cuisine ». Depuis novembre 2019, il est possible de télécharger gratuitement une compilation qui réunit uniquement des chanteuses. On peut trouver cette compilation sur le site du collectif La Souterraine. C'est à noter, mais c'est une première.
Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs, pour cette chasse aux clichés. Nous voilà à la fin de l'émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci à notre professeur Madame Mott et un merci tout particulier à notre journaliste Leïla Kouel. Ses conseils, sa patience et sa disponibilité ont rendu cette émission possible. N'oublions pas notre camarade technicien son, Gabriel.
Merci aussi à Esteban et Mohamed pour le making-of et Morgan pour l'édition. Nous vous laissons avec ce titre de Sophie Sand, Loin du bruit. À bientôt.